Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial podcaston. Alors le podcaston, qu'est-ce que c'est? C'est un événement national qui a lieu pour la deuxième année consécutive et qui regroupe plus de 400 podcasteurs, le but étant de mettre à l'honneur l'association de notre choix. J'ai donc choisi pour l'occasion l'association Itsasarima, qui est une association qui protège les cétacés au Pays Basque et dans les Landes, ma terre d'adoption depuis 7 ans maintenant. J'espère que vous trouverez cet épisode hyper intéressant. En tout cas, moi, j'ai adoré discuter avec Aurore. Mais d'abord, jingle! Bienvenue dans votre podcast Hublot ou Couloir. Je suis Anne-Sophie et je vous emmène avec moi dans mes anecdotes de voyage. Bonjour Aurore, bienvenue sur le podcast Hublot au couloir. D'abord, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce podcast. Et d'abord, comment vas-tu?
Eh bien, écoute, très bien et très contente d'être là avec toi aujourd'hui.
Écoute, tout le plaisir est pour moi. Comme tu le sais, on enregistre le podcast pour l'événement du Podcaston. Et j'ai décidé de mettre à l'honneur ton assos, Itsasarima, qui a pour but de protéger et d'étudier les cétacés au Pays Basque et dans les Landes, et dont tu es la présidente et fondatrice. C'est bien ça?
C'est bien ça, exactement.
Est-ce que tu peux déjà te présenter à nos auditeurs? D'où viens-tu, ton parcours de vie, et comment et pourquoi tu as fondé Itsasarima?
Oh, alors ça remonte à quelques années, puisque c'est vrai que l'association existe maintenant depuis plus de 10 ans. Donc effectivement, voilà, moi je suis en fait de formation, j'ai fait une formation en biologie marine, en Bretagne, donc pas très loin, mais à l'échelle de la France, assez. Et du coup, voilà, j'ai fait effectivement, donc très rapidement, au cours de mes études, le milieu marin m'a intéressée et j'ai voulu vraiment en faire mon métier, et un métier passion. Et donc voilà, j'ai fait donc une licence et un master en biologie marine. Ensuite, du coup, je suis partie à l'étranger, notamment en fait pour travailler sur la création d'un observatoire de mammifères marins en Polynésie. Et en fait, dans le cadre de cette mission, je travaillais pour une association. Donc, ça m'a permis en fait de m'immerger dans le milieu associatif que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et en revenant en France, j'ai voulu continuer à travailler sur les mammifères marins. Je me suis intéressée sur là où il y avait des manques d'informations sur les populations. En Bretagne, il y a des suivis qui sont faits. En Méditerranée, les animaux sont très suivis aussi. On s'est rendu compte que le sud-ouest pouvait être une zone intéressante d'étude. Donc à la base, je ne suis pas originaire de la région, mais je suis venue un peu combler les lacunes qu'il pouvait y avoir sur l'étude, et notamment sur la zone géographique qui nous intéresse, nous, le gouffre de Cabreton, donc ce canyon sous-marin de plus de 4000 mètres de profondeur.
C'est vraiment passionnant. Du coup, j'en viens à expliquer comment moi je vous ai connu. Je vous ai connu il y a quelques années, vous aviez un stand sur un marché et je passais par là par hasard et j'ai vu vos affiches avec des orques, etc. Et vous m'avez expliqué qu'il y avait des orques ici dans les Landes et au Pays Basque, alors que je pensais qu'il fallait absolument que j'aille au Canada, à l'autre bout du monde, pour en voir. Et puis vous aviez aussi le livret du consommateur, on en parlera sûrement un peu plus tard, mais j'avais trouvé ça super pertinent, très intéressant. Vous étiez là pour sensibiliser la population sans culpabilité et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, dis-nous Aurore, aujourd'hui, quelles sont vos missions, quel est le but, quel est votre quotidien au sein de l'association?
Bah en fait, nous, on a trois objectifs qui se résument en trois mots, c'est apprendre, comprendre et partager. Voilà, ça résume assez bien. Apprendre, bah, c'est en réalisant un suivi. En fait, on étudie les animaux dans le milieu marin, en mer. Donc, on va à leur rencontre pour identifier les différentes espèces. Par exemple, faire de la photo-identification, donc arriver à repérer les animaux. Est-ce que l'on constate des saisonnalités? Est-ce qu'il y a des animaux qui reviennent d'une année sur l'autre, qui sont là aussi toute l'année? Donc, voilà, on récolte beaucoup d'informations en mer, en tout cas le plus possible, pour essayer de voir un peu comment les animaux se répertorient sur notre zone d'étude. Le deuxième aspect, c'est comprendre. Alors là, dans cette partie-là, en fait, nous, on est correspondant local de l'observatoire Pélagis. Donc, comme tu l'as dit en introduction, nous, on intervient donc sur on fait partie du réseau national échouage. On intervient sur les échouages. Donc, lorsqu'un animal est retrouvé échoué sur la plage, il est signalé à Pélagis et Pélagis nous appelle pour que l'on intervienne dessus. Et nous, on intervient effectivement sur la côte, sur la côte du Pays Basque et du sud des Landes. Donc, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Et au sein de l'association, on est plusieurs habilités parce que toutes les espèces de cétacés sont des espèces protégées. Donc, on ne peut pas manipuler et intervenir sur des animaux comme ça. Donc, en fait, on a une habilitation du ministère de l'Environnement. Donc, on est plusieurs à l'association à l'avoir passé pour pouvoir réaliser ce recueil de données, ça soit sur les mesures de l'animal, quelle est l'espèce et les causes aussi, pourquoi l'animal s'est retrouvé, enfin essayer de trouver, parce que des fois on ne sait pas, mais essayer de trouver pourquoi les animaux se sont échoués. Et toutes ces informations, on les retransmet donc à l'observatoire Pélagis qui est de l'université de La Rochelle en fait. Donc ça c'est le deuxième aspect. Et le troisième objectif, c'est partager, et c'est comme ça que toi tu nous as connus. Effectivement, c'est partager notre engagement et notre passion lors d'actions de sensibilisation. Ça peut être auprès du grand public, auprès des scolaires, pour faire mieux connaître en fait le milieu marin et aussi mieux le protéger aussi au quotidien.
Et justement, qu'est-ce qu'on a comme espèce par chez nous? Est-ce que tu peux surprendre les gens?
Alors effectivement, dans le sud-ouest, on a une quinzaine d'espèces qui fréquentent notre zone. Alors bien évidemment, il y a des espèces qui sont plus facilement observables que d'autres. Bon, dans tous les cas, il faut principalement effectivement prendre un bateau. Ça nous arrive. On a deux espèces qu'on peut observer de la côte. C'est le grand dauphin et le dauphin commun. Mais bon, comme je dis, voilà, il faut être au bon endroit, au bon moment, et puis surtout regarder l'océan, et on n'a pas toujours les jumelles pour ça. Donc effectivement, sur un bateau, on va dire que c'est un peu plus facile, quoique un peu plus facile, ça dépend, ça dépend des jours. Mais voilà, on a une quinzaine d'espèces, donc on a donc le grand dauphin et le dauphin commun qui sont des espèces fréquentes, le bleu et blanc aussi. Et nous, nos préférés, on va dire, à l'association, c'est les globicéphales. Les globicéphales, c'est des gros animaux qui peuvent, les mâles peuvent faire jusqu'à 7-8 mètres. C'est imposant. Et ils sont très gros, avec une grosse tête arrondie noire. Et ils ont une nage, enfin nous, on adore en fait les observer parce qu'ils ont vraiment un comportement hyper sociables, ils sont très intéressés effectivement par le bateau et puis ils ont souvent en mode repos, ils sont vraiment au repos. Donc on peut vraiment prendre pas mal d'informations et profiter aussi un petit peu du moment. Voilà pour les espèces qui sont fréquentes chez nous. Après, il y a des espèces migratrices. On peut effectivement, en fonction de la saison, croiser la route de cachalot, de rorqual commun, de petit rorqual ou même de baleine à bosse. Alors ça, c'est pas tous les ans, hein, bien sûr, mais ça nous arrive tous les 3-4 ans d'avoir des baleines à bosse qui viennent sur nos côtes.
Et pour nos auditeurs qui auraient un bateau, les chanceux, quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire quand on s'approche justement de cette faune marine? J'imagine qu'il y a plein de choses à faire, arrêter le moteur, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller?
Alors en fait, il existe une législation. On ne peut pas approcher les animaux comme on veut, hein, bien sûr. Donc en fait, il y a une distance. Alors, elle est différente en fait en fonction des espèces, en fonction si c'est des dauphins ou des baleines. En fait, il y a deux aspects. Soit les animaux, vous les voyez au loin, et puis c'est vous qui allez à leur rencontre. Ça peut être le cas. Dans ce cas-là, faut avoir une vitesse maximum de 5 nœuds. Hein, c'est vraiment aller tout doucement. Il faut pas les prendre de face, pas les pourchasser non plus. Enfin voilà, essayer. En fait, ça paraît logique, mais en mer, c'est pas forcément évident parce que c'est des animaux qui changent de direction, etc. Donc généralement, on dit qu'il faut les prendre aux trois quarts arrière et arriver à longer, enfin à se mettre en parallèle d'eux. Un peu comme si vous vouliez les accompagner dans leur route, éviter les changements brusques, etc. Et surtout, limiter le temps d'observation à 30 minutes, c'est déjà pas mal. Et si les animaux effectivement se retrouvent au repos et proches du bateau, mettre le bateau au point mort, sachant que au niveau des distances, là je parle si les animaux ne viennent pas d'eux-mêmes, hein, Les distances, en fait, c'est interdit, c'est en dessous de 100 mètres de distance. Le mieux, c'est 300 mètres. Comme ça, au moins, il y a le respect aussi des animaux et de leur quiétude aussi.
Oui, tu me disais aussi la dernière fois que quand vous partiez en bateau, vous aviez également du matériel sonore qui vous permettait d'étudier les bruits sous-marins pour repérer les espèces, et que c'était parfois extrêmement désagréable car il y avait beaucoup de pollution sonore, donc forcément ça devait être désagréable aussi pour eux. J'imagine que tout ce qui est jet ski et compagnie, ça doit être à la limite de l'insupportable.
Ah oui, clairement. Donc nous, en fait, on a donc le micro, ça s'appelle un hydrophone. Donc effectivement, ça nous permet, voilà, de capter les vocalises des animaux, puisque les vocalises sont audibles à l'oreille humaine. Donc du coup, effectivement, on peut aller les avoir en direct sur le bateau, ce qui nous permet un peu de nous diriger vers les zones d'observation. Au bout d'un moment, quand on entend beaucoup de moteurs, déjà, on arrive à pas trop capter les animaux, hein, ça fait du brouhaha et on entend, voilà, il y a de la perturbation. Souvent, ça nous arrive, quand on enlève le casque, de dire, wow, ah, ça y est, on est au calme, voilà. On se met ensuite à la place des animaux en se disant que eux, ils peuvent pas retirer le casque, ils vivent effectivement dans ces perturbations. Donc voilà, c'est vrai que ça nous permet un peu de se mettre à leur place et de voir un peu ce qu'ils peuvent subir au quotidien. Et c'est vrai que le trafic et les pollutions sonores, le trafic maritime, touristique, enfin voilà, est quand même assez important. Dans le monde entier.
Et j'y pense, là, j'ai une question qui me vient. C'est vrai que nous, dans les Landes au Pays Basque, on a beaucoup d'échouages. Et du coup, si nos auditeurs tombent sur un phoque ou autre, ou un autre animal marin, quelle est la marche à suivre?
Alors, la première des choses, c'est garder une distance de sécurité. On aurait tendance effectivement à se dire, oh, j'ai jamais vu un dauphin de près ou j'ai jamais vu un phoque de près, etc. Je vais m'en approcher. Il y a des règles en fait de protection, il y a des risques sanitaires. Alors si l'animal est échoué mort sur la plage, il y a effectivement pas beaucoup de risques pour l'animal. Mais par contre, il peut avoir des bactéries ou des virus qui sont transmissibles à l'homme. Et transmissible, par exemple, aussi avec les chiens. C'est pour ça tenir les chiens en laisse. Nous, c'est la première chose qu'on dit quand on voit une personne avec un chien, c'est mettez-le en laisse parce que il suffit qu'il aille renifler, enfin voilà, c'est ou même croquer la carcasse, pas forcément bon non plus. Donc, c'est tenir son chien en laisse, garder une distance de sécurité et surtout contacter le plus rapidement l'observatoire Pélagis qui va pouvoir en fait faut donner les informations sur quel type de plage, des photos aussi. On a la chance aussi avec nos smartphones aujourd'hui de pouvoir prendre des photos, donc envoyer ces informations-là à Pélagis, et comme ça eux ils contactent l'ensemble des correspondants, hein. On est sur l'ensemble du territoire, on est plus de 450 aujourd'hui, donc du coup effectivement de contacter le correspondant le plus proche pour venir faire les récoltes de données. Nous, aujourd'hui, on le fait plus sur les plages directement. Le réseau existe depuis plus de 30 ans maintenant. Donc avant, on le faisait directement sur les plages. Maintenant, on a la chance de pouvoir faire évacuer l'animal de la zone de plage où effectivement on peut croiser des passants, etc. et de les isoler un peu à l'arrière des dunes pour être au calme et aussi pour éviter les risques sanitaires aussi. Parce que nous, quand on est sur un animal, on a la combinaison, les gants, enfin voilà, on fait très attention. Le masque aussi. On avait les masques bien avant un certain virus qui nous... Donc nous, on connaît bien ça. Mais du coup, voilà, c'est vrai que du coup, il faut faire attention à ça. Donc nous, on se protège aussi.
Et tu vois, moi, en tant que citoyen lambda, si je vois un animal échoué sur la plage et qu'il est vivant, mon premier réflexe, ça va d'être d'essayer de le remettre à l'eau ou de l'arroser pour qu'il continue à être hydraté. Mais ça, du coup, faut pas le faire.
Non, alors, il faut pas le faire en fait sans information. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé souvent en fait sur les animaux vivants. Alors, c'est une toute petite partie des échouages parce que les animaux vivants, les dauphins, alors les phoques, eux, ils vont venir effectivement à terre peut-être pour se reposer ou pour éviter les tempêtes. Donc, effectivement, eux, ils ont encore une vie un peu terrestre. Mais du coup, les dauphins ou les baleines n'ont rien à faire. C'est pas du tout leur milieu. Donc, effectivement, c'est des animaux qui sont déjà dans un stress énorme. parce qu'ils se disent qu'est-ce que je fais là, etc. Et en fait, en voulant parfois aider, ce que je comprends, hein, c'est humain et voilà, on a envie de sauver l'animal. Et ben en fait, des fois, des gestes simples peuvent être encore plus nocifs en fait pour l'animal. Donc en fait, contacter les personnes habilitées, donc comme l'Observatoire Pélagis, permet en fait d'avoir les bonnes indications. Donc peut-être que vous serez amené à manipuler l'animal, mais pour ça, il faut avoir la personne au téléphone qui vous dit quoi faire. Et le quoi faire, c'est souvent éviter notamment, par exemple, de lui mettre de l'eau trop sur le corps et surtout trop sur l'avant du crâne où il y a les vents, donc les narines en fait de l'animal. C'est des animaux qui respirent dans l'air, hein, ils respirent pas dans l'eau. Donc si vous mettez de l'eau en fait sur les narines, enfin sur les vents de l'animal, vous imaginez bien les conséquences que cela peut avoir sur un animal qui est déjà en situation de handicap. Le fait de manipuler aussi, parce que c'est des animaux qui sont très lourds, donc tirer sur les pectorales, donc sur les nageoires qu'ils ont sur les côtés, et ben en fait c'est super mauvais pour eux. Donc voilà, il y a plein de choses en fait qui paraissent, on va dire, innées et qu'on se dit c'est ça qu'il faut faire. Et ben non, en fait, pas forcément, c'est pas ce qui est le mieux adapté pour les animaux. Donc si on veut vraiment les sauver, il faut avoir les bonnes indications. Et pour ça, faut contacter les personnes qui peuvent vous en donner.
En fait, c'est comme pour nous, on appelle les pompiers des dauphins, c'est l'Institut Pélagiste.
C'est ça, exactement. Alors, si jamais vous n'avez pas le numéro de Pélagis, vous pouvez appeler les pompiers hein, aussi. Ils sont normalement formés pour vous répondre et faire ce qu'il faut aussi. Hein.
Bon, bah écoute, je mettrai quand même dans la description de ce podcast le numéro de l'Institut, au cas où, ça peut toujours servir, on ne sait jamais vu qu'on en parle. J'aimerais revenir sur ce qui m'a fait vous connaître, le livret du consommateur, que j'avais trouvé vraiment très intéressant. Moi, personnellement, j'avais vraiment aucune éducation sur le sujet, je n'avais aucune idée qu'il y avait une saisonnalité de la consommation de poissons. Et c'est vrai que ce que j'aime bien avec votre association, c'est que vous n'êtes pas dans les extrêmes, que vous avez une approche pédagogue auprès de la population. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce livret ?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est venu d'un constat très simple. C'est que, bah, en fait, la population, la société, en fait, devient de plus en plus lucide face à son impact en fait sur l'océan, et souvent bah les gens demandent à savoir comment ils peuvent limiter cet impact, mais ils ont pas forcément l'information nécessaire. Et pour ça, bah du coup, on a essayé de créer donc ce guide du consommateur pour que chacun repense sa consommation de poissons au quotidien en adoptant en fait une consommation plus durable et responsable. En gros, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, les générations futures continuent à avoir la biodiversité que l'on a au niveau marin. Et aujourd'hui, effectivement, les deux gros impacts importants sur les populations de poissons, surtout dans le golfe de Gascogne, on en entend souvent parler aujourd'hui, c'est la surpêche et la prise accidentelle d'animaux marins comme les dauphins. Donc c'est pour ça en fait que l'idée nous est venue aussi, voilà, de faire ce guide-là, c'est que in fine, bah ça aide aussi les dauphins. On a essayé en fait de faire un guide qui se voulait le plus simple et le plus ludique et facile à lire, tout simplement. Dans ce guide, vous pourrez effectivement voir que on vous demande pas d'arrêter de consommer du poisson. Comme je dis souvent, tout le monde ne pourrait pas être végétarien ou végane, par exemple. Mais si chacun de nous faisait aussi un petit pas ou une prise de conscience sur sa consommation, ça aiderait tout le monde, parce que ça aiderait les animaux, ça aiderait les poissons, ça aiderait les dauphins, ça aiderait les pêcheurs aussi à essayer d'avoir des méthodes de pêche aussi plus durables et responsables, et ça nous aiderait nous aussi, accessoirement. Donc du coup, voilà, effectivement, donc dans ce guide, on fait attention, par exemple, effectivement, le poisson, ça se mange pas toute l'année, comme les fruits et légumes. Il existe une saisonnalité. Par exemple, le bar, ça ne se mange pas en hiver. Alors, même si c'est là où on en voit le plus, parce que bah, ces animaux se regroupent en hiver, donc effectivement, pour les pêcheurs, c'est plus facile. Qui dit poisson, dit pêcheur, dit aussi dauphin. Donc, tout le monde se regroupe au même endroit et c'est là qu'effectivement, il y a des accidents. En respectant aussi les cycles de reproduction des poissons, donc faire attention, par exemple, ne pas aller en consommer et ne pas aller les pêcher au moment où ils se reproduisent, si on veut que ça continue et qu'ils continuent à être pérennes dans l'océan. Et aussi, bah, faire attention aux techniques de pêche utilisées. Donc, favoriser peut-être la pêche à la ligne plutôt que les chaluts, qui est aujourd'hui les chaluts ou les filets maillants et tout, qui sont aujourd'hui les techniques les plus impactantes sur les populations de dauphins, et qui est en plus non sélective. Donc, on va prendre des grandes quantités et on va pas forcément pouvoir tout revaloriser. Donc, voilà, c'est faire en fait tout ça. C'est prendre ce que l'on a besoin, tout simplement, et laisser le reste pour que ça perdure, tout simplement.
Après, c'est difficile de savoir de quelle façon ton poisson il a été pêché. Tu vois, quand tu vas sur le marché de Biarritz ou de Saint-Jean.
Détrompe-toi. En fait, on a la chance en France. C'est pas le cas de tous les pays dans le monde, d'accord? Mais en France, on a la loi en fait qui oblige les poissonniers ou les vendeurs de poissons à vous indiquer. Alors, des fois, c'est marqué, certes, en tout petit. Là, vous avez le prix, en fait. Là, vous avez le prix du poisson. Vous avez en tout petit la technique de pêche utilisée. Si ce n'est pas indiqué, le vendeur doit vous fournir ces informations-là parce qu'il doit les avoir, en fait. C'est la législation, en fait, qui l'oblige. Donc ça, les gens ne le savent pas forcément. Et aussi, là où le poisson a été pêché. Donc, favoriser, nous, par exemple, ici, dans le sud-ouest, donc effectivement, nous, on est sur Bayonne, on est près de l'océan, ça me paraît logique de consommer des poissons qui sont extraits au moins de l'océan Atlantique ou du golfe de Gascogne, pas de l'océan Indien, par exemple. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile de se fournir, par exemple, quand on habite à Lyon ou quand on habite à Paris, ça, je dis pas. Mais du coup, localement, nous, favoriser le local en vivant près de l'océan, ça paraît plus judicieux. comme je dis souvent aux gens que je rencontre, je dis souvent, ça, c'est bizarre en fait de se dire que le poisson qu'on a dans notre assiette a fait plus de kilomètres que nous pour arriver dans notre assiette, alors qu'on vit près de l'océan. Voilà.
Bah écoute, je ne savais pas du tout. Dimanche, je passe au marché, aux Halles de Biarritz, à la poissonnerie, et je vais vérifier.
Eh bien, tu vérifies et tu me dis, voilà, tu me fais ton retour. Mais tu verras, c'est marqué en tout petit. Et même sur... alors, même si, bon, je vous dirais effectivement de consommer plus dans une économie locale, mais dans les grandes surfaces aussi, sur les emballages. Les barquettes en retournant derrière. Alors bien sûr, faut prendre le temps de regarder, mais vous avez aussi l'origine et la technique de pêche utilisée. Souvent, pas tout le temps, il y a encore des couacs, mais très souvent, c'est indiqué.
Eh bien, je vais regarder attentivement. Et sinon, du coup, quelle est votre actualité? Parce que je crois que vous avez plein de trucs qui arrivent là, non?
Oui, alors toujours nos ateliers de sensibilisation dans les écoles. Le mois prochain, donc fin avril, on participe à l'Ocean Fest, qui est le festival organisé par Hugo Clément, notamment avec plein d'autres personnes, pour justement faire un événement qui se veut à la fois musical. Il y aura plein d'artistes, de concerts, etc., mais il y aura aussi des conférences et des ateliers justement de sensibilisation. Et nous, on aura sera présent au conférence et on proposera un atelier aussi sur justement la découverte de la biodiversité marine locale.
J'ai vu en plus cette semaine qu'ils avaient sorti les places, c'est gratuit pour les conférences, non?
Les conférences sont payantes, c'est les ateliers qui sont gratuits.
Et est-ce que vous continuez les stands sur les marchés comme quand on s'est rencontrés? Est-ce que nos éditeurs peuvent vous rencontrer quelque part?
Alors non, malheureusement, on a dû arrêter pour cette année les marchés parce qu'en fait, on est tous bénévoles au sein de l'association. Donc effectivement, l'investissement était trop important pour tout. Mais par contre, on a un calendrier de nos activités. On met sur nos réseaux sociaux souvent une semaine, 10 jours avant la présence à des événements locaux comme la fête de la mer, la fête de la science. Voilà, on essaye d'être présent de manière régulière tout au long de l'année. Bien évidemment, en hiver, il y a un peu moins d'événements, mais là, à partir du printemps, là, ça y est, on y est, on va commencer à enchaîner et on met ça sur nos réseaux sociaux.
Je mettrai tous vos réseaux dans la description du podcast. Et d'ailleurs, où est-ce qu'ils peuvent se procurer le livret du consommateur? Est-ce qu'il est téléchargeable sur votre site?
Oui, il est téléchargeable gratuitement et il est disponible donc sur notre site dans l'onglet « Mieux manger ».
Et comment est-ce que nos auditeurs peuvent vous aider? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles, de temps, d'argent?
Alors nous, effectivement, alors bien sûr, on est une association, donc le nerf de la guerre, effectivement, c'est le côté financier. Mais c'est aussi, en fait, nous aider dans la sensibilisation, c'est nous aider en parlant de nous, si vous êtes dans la région, parlez-nous auprès des instituteurs de votre école pour venir faire des animations. Si vous organisez des événements, nous proposer de participer aussi à ces événements-là, de faire des dons aussi à l'association. Si vous avez envie d'intégrer l'association et que les objectifs vous intéressent, n'hésitez pas à nous faire une demande de bénévolat avec grand plaisir, ou intégrer l'association en tant que membre avec grand plaisir. L'association est ouverte à tous. Alors c'est vrai qu'à la base on était un peu tous globalement biologistes, mais aujourd'hui l'association elle est ouverte à tous, parce qu'une association, il y a plein de corps de métiers différents, il y a plein de domaines différents, donc on peut toujours trouver une place pour tout le monde.
Pour les dons, du coup, ça se passe directement sur votre site, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et c'est ça, exactement. Ou sur le site Hello Asso aussi, en fait. Mais voilà, c'est sur notre site ou sur le site Hello Asso.
Et aussi, il me semble que si on a un auditeur qui a du temps et un bateau, on est un peu preneur aussi, non?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'allais oublier, effectivement. Si vous avez un bateau et que vous avez envie d'aider une association à réaliser son suivi en mer, nous, on est toujours preneurs. Plus on a de bateaux, plus on peut effectivement être disponible et sortir en mer. Donc, ne pas hésiter. Même si, voilà, on aimerait proposer à tout le monde de sortir en mer gratuitement pour aller les observer. Là, on est vraiment dans le cadre d'études, donc l'accès, on va dire, à l'océan est plus réservé vraiment aux acteurs de l'association, aux membres qui sont actifs au sein de l'association pour venir nous aider. C'est pas, voilà, on peut pas ouvrir les sorties gratuites à tout le monde.
Merci beaucoup Aurore. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on conclue ce podcast?
Non, en tout cas, merci beaucoup pour avoir pensé à nous et pour ton invitation à participer justement à cet événement. Et puis non, là comme ça, je pense que on a fait le tour. Rien ne me vient en tout cas.
Eh bien, parfait. Merci beaucoup Aurore. Pour ceux qui découvrent l'association, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leurs réseaux sociaux, sur leur site internet. Il y a vraiment beaucoup d'informations, c'est hyper intéressant. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt. Merci Aurore.
Au revoir. Merci.
Voilà la team, c'est la fin de l'épisode. Je voulais quand même faire une petite conclusion. Je suis hyper contente d'avoir pu mettre en lumière cette association. Je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'on ne parle pas assez des petites associations, surtout en écologie. On entend toujours parler des mêmes très grosses associations, même ici au Pays Basque, on entend toujours parler des mêmes. Et en vrai, il y a plein de petites associations qui se battent comme ça au quotidien, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas des moyens d'action comme les autres. Et je trouve que c'est important de les mettre à l'honneur. Donc n'hésitez pas à les suivre, à aller vous renseigner. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça aura été intéressant. N'hésitez pas à consulter le livret du consommateur. Peut-être que vous allez apprendre des choses, peut-être que vous pouvez changer un petit détail dans votre consommation et que ça peut faire la différence. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Et puis, écoutez, n'oubliez pas, voyager, c'est toujours la meilleure des options, mais on reste à une distance de sécurité des mammifères marins. Allez, bisous la team!